Alors Michel, notre sommaire prévoit maintenant un sujet que tu appelles les belles petites lignes de la région Occitanie. Alors ce sont des lignes ferroviaires.
Oui. Oui, Jean-Claude, je dois le confesser d'ailleurs, jusqu'à dimanche matin, j'ignorais, à ma grande honte, le nom de l'élu de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée qui, dans l'instance exécutive de cette région, avait la charge des trains.
Alors, je partage ta honte, je l'ignorais aussi.
Ah, ben écoute, donc on va donner l'information à nos auditeurs, puisque dans le dossier que le Midi Libre a consacré, un gros dossier,
quoi,
a consacré à cette histoire des petites lignes de la région Occitanie, le monsieur en question est interviewé et il s'appelle Jean-Luc Gibelin. Il est membre du Parti communiste. Et il est interviewé donc au milieu d'un dossier bien empli, mais je dois dire, c'est ma lecture, où le nombre d'informations, je dirais, objectives sur la situation réelle de ces petites lignes est quand même laisse beaucoup à désirer. Donc je m'attarde plutôt sur cette interview de monsieur Gibelin, puisqu'il s'agit de lui encore une fois. Et j'y lis un argumentaire qui franchement, on doit trouver dans les tracts qui circulent actuellement sur tous les réseaux, à l'exception, entre parenthèses, du ferroviaire, qui, comme tout le monde le sait, est perturbé par des mouvements de grève dites, c'est joli,
perlées.
C'est magnifique comme expression, perlées.
Oui,
Il y a de la poésie, quoi. Oui,
en anglais, ils appellent ça « rolling strike », c'est-à-dire une grève roulante.
Ça roule, c'est musical, c'est léger.
On en reprendrait presque.
C'est ça, les usagers doivent apprécier, d'ailleurs, ce genre d'expression. Bref, alors ce souci, dans cette interview, précise-t-il, à la première question, d'ailleurs, posée par un journaliste anonyme, il n'est pas cité le journaliste qui l'interview, son premier souci, dit-il, est de veiller à ce que les lignes à vocation touristique et à connotation historique, il faut bien retenir, à connotation historique, restent dans la convention TER. Alors, j'ouvre une parenthèse. La convention TER, c'est la convention qui est signée entre la SNCF
et la région.
Et la région, je dirais plutôt signée par la SNCF et par la région Occitanie. Car c'est la région qui a la compétence, qui donc finance les transports régionaux.
Voilà, mais finance jusqu'à un certain point.
Quand même, 228 millions d'euros.
Oui,
bon. C'est pas rien, quoi, chaque année. Alors, je lis quand même au bout d'un moment, en fait, dans cette interview, le journaliste anonyme se dit « c'est quand même pas possible ». Donc il interroge notre chargé des trains et lui dit mais quand même... 40 voyageurs par jour, en semaine, entre La Bastide et Mende. C'est suffisant? C'est rentable? Bon, évidemment non.
Quel mot rentable. Quelle horreur.
Il est impossible qu'elle soit rentable. Et Gibelin en question, de répondre comment il n'est pas question d'accepter, je le cite, il n'est pas question d'accepter qu'on nous assène, un niveau de présence et de fréquence, je ne serai pas le vice-président qui ferme cette ligne. Autrement dit, Jean-Claude, n'y aurait-il qu'un seul voyageur entre Mende et la Bastide, une fois par semaine, sur cette ligne, elle sera maintenue, nous dit M. Gibelin.
Ce serait le train personnel du voyageur.
Comme celles qui sont actuellement sous-utilisées, et pourquoi pas, après tout, réouvrir des lignes historiques, qui ont tout à connotation historique, en tout cas, pour reprendre l'expression de M. Gibelin, comme, par exemple, Narbonne-Bise.
Oui. Enfin, qui fonctionne pour le fret.
Oui, Narbonne-Moutoumé, qui en son temps existait.
Oui,
Ou plus près de nous, Béziers-Valras aussi, pourquoi pas. Enfin, bref, du grand...
Oui, c'est assez affligeant d'entendre ça.
Du grand n'importe quoi, d'autant que, quand on lit attentivement cette interview, on tombe sur cette petite phrase qui évidemment ne m'a pas échappé, à savoir que il y a des ayants droit au transport où qu'ils habitent, je parle sous le contrôle de ce monsieur Gibelin, c'est sa phrase, ayant droit non pas au train mais au transport où qu'ils habitent, ce qui dit au transport bus, comme il en existe déjà à la SNCF, covoiturage, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur, bon, nous sort effectivement tout un discours idéologique pendant les trois quarts de son interview, pour à la fin, dans une toute petite phrase, dire en réalité que le moment venu, il sera bien lui aussi, en fait, hein, avec ses amis élus de la région, obligé de faire des choix et donc d'arbitrer entre les différents modes, en fait, de transport qui pourraient être mis en place selon les territoires et selon le taux de fréquentation.
Voilà, faire des choix, ben, fallait commencer par voilà, là, c'est ce qui veut le dire, langage réaliste.
Ce qui veut dire bon, que de petites phrases au cours d'un entretien, disons parfois fort longs, sur de petites lignes en Occitanie comme ailleurs.
Voilà, oui, ben, on est vraiment là dans la petite ligne et, et le petit discours. Alors, glougloutons un petit peu, si je puis dire, Michel, puisque c'est apparemment ce que peuvent faire à nouveau les dindons de la farce de Marc Aurignan.
Oui, les dindons qui étaient très en colère, qui ne glougloutaient pas de plaisir, en fait, de ces derniers temps, puisqu'ils se battent, comme nos auditeurs le savent maintenant, puisqu'on a chroniqué sur le sujet déjà à deux reprises, me semble-t-il, parce qu'ils ne veulent pas voir l'érection, si je puis dire, en fait, d'une prison devant leur fenêtre, en fait, puisqu'ils sont pour les amis de Marc Aurignan pour l'essentiel.
Doublé
d'une aire de grand passage, en fait, juste à côté, qui... Voilà,
pour
qui,
ce qu'on appelle les gens du, les voyage, gens du voyage. Ce qu'on appelle pudiquement, si je puis dire, les gens du voyage.
Voilà, j'avais relevé en son temps que voilà, et ça pouvait paraître aussi stigmatisant pour les gens du voyage que se retrouver à côté d'une prison. Mais enfin, en tout cas, les gens, les dindons de la farce peuvent à présent glougloutés pour deux raisons, en fait, mon cher Jean-Claude. La première, c'est que il semblerait maintenant que les autorités, je mets des guillemets, aient enfin compris que ce terrain-là, pour une prison toute virtuelle, mais après tout, bon, on peut tout imaginer, en fait, hein, et donc pourquoi pas continuer à réfléchir sur une prison virtuelle, en fait, hein, et surtout sur son lieu d'implantation. Il semblerait donc que pour cette prison virtuelle, les autorités seraient en train de réfléchir effectivement à un terrain qui serait sur la commune de Lézignan.
Paraît-il. On n'a pas grand-chose de concret là-dessus.
Ah oui, mais d'après mes sources, effectivement, des réunions se seraient tenues entre préfecture, en fait, communauté de communes de Lézignan, enfin bref, toutes les parties intéressées, encore une fois, pour un projet qui n'est que virtuel aujourd'hui. Oui. Hein. Mais ce que je voulais relever entre parenthèses dans cette affaire-là, c'est que je ne comprends pas que... dès le moment de cette annonce par Marie-Hélène Fabre, la députée sortante est sortie, faite en pleine campagne législative, on n'est pas pensé à ces terrains-là sur le Lézignanais, qui me semblent parfaitement adaptés, effectivement, à ce type de construction. Des terrains qui sont maîtrisés par la commune de Lézignan et maintenant par la communauté de communes, et qui sont à proximité de l'autoroute, enfin bref, donc, idéalement placés.
Oui, idéalement, mais grande question quand même. Et les Lézignanais, ils en veulent?
Oui, mais sauf que là, c'est en pleine zone, en fait, commerciale, en fait, industrielle. Il n'y a pratiquement pas de pavillon, en fait, ni de voisins qui auraient pu être gênés par effectivement, de cette construction. Donc, passons vite sur le fait qu'on n'a pas pensé déjà à ce terrain-là, sur Lézignan à l'époque. Et puis, deuxième raison, surtout, c'est que l'aire de grand passage, eh bien, elle est renvoyée aux calendes grecques pour le moment, parce que j'ai appris, bientôt, l'information sera probablement mise sur la place publique dans nos journaux locaux, que le maire de Narbonne, Didier Mouly, avait décidé de ne pas modifier son PLU pour l'adapter
le plan local d'urbanisme,
hein, qui était la condition préalable pour envisager la création d'une aire de grand passage sur la zone en question dont ne voulaient pas les dindons de la farce. Hein. Donc, alors ce qui, évidemment, est particulièrement gênant pour Jacques Bascou, qui, on le rappelle ici, depuis de nombreuses années, se retrouve avec l'obligation, en fait...
En tant que président du Grand Narbonne.
Du Grand Narbonne, qui a la compétence pour créer ces aires de grand passage, se retrouve dans l'obligation d'en créer une, hein, mais que personne sur le territoire ne veut, en fait. Ni les gens du voyage qui, aux propositions faites, elles ont toutes refusées parce qu'elles étaient... de leur point de vue, mal placé, en fait,
pas suffisamment
adapté, en fait, à leurs conditions de vie. Celle de la Palme qui avait été.
On n'en veut pas
non plus.
Tout un tas de raisons.
Enfin, bref, voilà notre Jacques Bascou qui se retrouve dans cette position un peu compliquée. D'autant que, Les élus, des maires du voisinage de cette prison, membres de sa majorité, Névian Marcorignan et Moussa, n'en voulaient pas non plus, y compris le député, le nouveau député à l'impérial, oui, qui pourtant était son vice-président à l'aglo et qui, à l'époque où il était vice-président, n'était pas contre du tout.
On lui demandera, il sera au micro prochainement, on lui demandera le pourquoi de ce changement.
On lui posera la question. Donc, conclusion. Nos dénoms de la farce, peuvent goûter, en criant de joie qu'effectivement, voilà, ils n'auront plus devant eux. Sauf que, une petite parenthèse quand même, il semblerait que le maire de Narbonne, c'est certain, que le maire de Narbonne est quand même, en fait, sur un terrain qui lui est situé, serait situé entre les deux terrains qui n'est
pas bien dans envisagerait.
Qui est destiné, à la prison, à l'état de grand passage, envisagerait de créer, à la demande d'ailleurs d'une grosse maison narbonnaise, une cave coopérative, dans le coin. Ce qui correspondrait à la vocation vitivinicole de la zone en question.
Espérons qu'elle serait, acceptée peut-être ou pas.
En tout cas, ça va pas être facile non plus.
En tout cas, c'est le moment de marquer une deuxième pause et je rappelle que tout de suite après, nous retrouverons notre invité, Alain Botte, qui est le directeur général délégué du journal L'Indépendant.